Être et vivre entre intelligence et amour. Sixième cours. L'intelligence et la volonté. Dans ce sixième chapitre, nous entrons dans un sujet fort intéressant, mais surtout très important, après en avoir étudié l'une après l'autre, l'intelligence et la volonté. Trop rapidement, certes. Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la volonté? Quels sont leurs domaines propres, leurs relations mutuelles? Quels sont leurs domaines respectifs pour le bien de la personne humaine, son développement et son épanouissement? Car il faut bien le reconnaître, ces deux éléments fondateurs de l'esprit humain, qui identifie l'homme parmi les êtres vivants, en particulier l'animal, place l'homme au sommet de l'univers en tant qu'il est la réalité vivante la plus parfaite. Être doté de l'esprit, c'est posséder une capacité spirituelle, intellectuelle et affective. C'est être capable de permettre à l'intelligence d'atteindre ce pourquoi elle est faite, la capacité de connaître, donc la recherche de la vérité. C'est aussi être capable de permettre à la volonté d'atteindre ce pourquoi elle est faite, donc la capacité d'aimer une personne. Par conséquent, c'est être capable de connaître, de juger, puis d'adhérer à ce qui est. Et c'est être capable d'avoir une intention de choisir et d'aimer et d'être aimé. Premièrement, l'expérience entre intelligence et volonté. Ces interrogations successives, ces distinctions fondamentales inhérentes à l'esprit, nous pouvons quotidiennement les observer et nous en rendre compte dans la vie de tous les jours. Désirer, être attiré par, aimer est une chose. Découvrir, connaître, chercher, adhérer en est une autre. Être intelligent et être amoureux ou volontaire ne font pas toujours bon ménage. Surtout, quand la qualité de l'intelligence ou de la volonté présente dans la personne n'est pas tout à fait ou pas du tout conforme à la signification réelle de ces deux termes. De fait, dans le langage courant, être intelligent revient à réussir parfaitement dans la vie, à avoir une grande mémoire jointe à une intelligence habile, qui emmagasine vite et beaucoup de choses. En quelque sorte, avoir un QI élevé, voire être un surdoué. Tout cela est bien souvent de l'ordre de la vitesse, de la quantité assimilée dans les meilleurs délais. Pour le philosophe, l'intelligence est foncièrement qualitative, c'est-à-dire pénétrante. Nous avons précédemment abordé cette question au chapitre 3 à propos des modes de fonctionnement intellectuel, extension, profondeur, opposition. L'amour peut-il suivre le même itinéraire, celui de la quantité en premier et non de la qualité? C'est possible, mais les résultats ne sont pas de même nature. Avoir des quantités d'amis signifie aimer en surface, avoir de bonnes relations, constituer de sensibilités proches ou d'intérêts communs. Sans engagement profond et sans remettre en question notre indépendance et nos modes de vie. C'est aussi se laisser prendre par l'efficacité dans une sorte de générosité, de dévouement, de disponibilité tous azimuts. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas l'amour. L'amour réclame ce qui est personnel et profond, ce qui prend de l'intérieur, donc ce qui est substantiel et chargé de sens. Dans la vie, nous le voyons bien chez les autres comme pour nous-mêmes. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ont des difficultés à aimer, qui croient aimer l'autre, mais qui s'aiment eux-mêmes avant tout, et d'autres qui se donnent par amour sans être particulièrement doués d'intelligence. La nature humaine est faite comme cela, diraient certains. Mais non, la nature humaine n'est pas faite comme cela. Sauf pour celles ou ceux qui sont nés avec un handicap ou qui ont été gravement meurtris pendant leur enfance et durant leur croissance. Bien souvent, ceux qui ont du mal à aimer sont ceux qui n'ont pas ou peu été aimés, dont l'enfance a été abîmée ou gâchée au plan affectif par manque d'amour. De même, ceux qui paraissent peu intelligents, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas intelligents. Ceux qui ont été éduqués avec un manque chronique d'intelligence, c'est-à-dire loin des besoins qualitatifs nécessaires à la croissance de l'intelligence qui est faite pour apprendre, découvrir, recevoir, comprendre, connaître, ce sont ceux qui n'ont pas été délaissés ou mis de côté devant un écran de télévision, par exemple, parce que trop de travail, trop d'ennuis, trop de caprices à supporter. C'est cela l'intelligence, c'est cela l'amour. C'est comprendre quelles sont les exigences profondes de la croissance de l'intelligence et de la volonté. C'est consacrer du temps à ses enfants pour les aider à grandir, pour se préparer à la vie. Non seulement la vie pratique, efficace, mais la vie spirituelle, celle de l'esprit, de l'ouverture à l'autre, du respect de l'autre, de la générosité, de la vérité, du travail désintéressé, de la culture à la découverte du monde. Mais c'est préalablement le vivre soi-même, pour soi, avant d'en faire bénéficier les autres par une sorte de rayonnement personnel et spirituel. En effet, on peut être intelligent d'une façon artistique, c'est-à-dire inventif, créatif, d'une façon mathématique, c'est-à-dire intuitif, d'une façon critique, c'est-à-dire réactive et négative, ou d'une façon cartésienne, c'est-à-dire pleine de certitude a priori. Mais l'intelligence n'est pas cela, comme la volonté n'est pas dans le sentiment, le romantisme ou dans l'efficacité. L'intelligence est présente dans l'acte de volonté. En effet, il faut être intelligent pour agir par amour, pour choisir un ami, pour déceler une intention de vie, puis s'engager dans la vie, pour aimer durablement en dépit des contraintes qui s'imposent sans cesse. De même, il faut être volontaire, non pas au sens efficace, mais capable d'aimer pour chercher la vérité, réaliser une œuvre de qualité ou s'engager pour un bien commun ou un bien personnel, déterminant notre vie et exigeant de poser un choix difficile. Les opérations de vie intellectuelle et les opérations de vie affective sont différentes. La vie de l'intelligence se construit à partir de l'appréhension, de l'assimilation et du jugement, tandis que la vie affective se construit à partir d'une intention de vie, du choix d'un ami et d'un premier amour, d'un amour qui engage une vie. Ces deux opérations se distinguent l'une de l'autre. La volonté repose sur le désir en vue de l'amour, tandis que l'intelligence repose sur la connaissance en vue de la vérité. La vie intellectuelle mène à la solitude de la connaissance acquise et approfondie dans la recherche de la vérité, tandis que la vie affective mène à la coopération avec un autre, épanouissant la personne dans une véritable amitié spirituelle. Cette différence de situation nous remet en mémoire trois citations qui nous donnent trois leçons de vie. La première est de Charles Péguy. Celui qui cherche la vérité remonte le fleuve pour aller boire à la source, mais il est souvent seul. Le monde descend le fleuve, les cadavres plus vite encore. La seconde est d'Aristote, extraite de l'Éthique à Nicomaque. L'amitié est une vertu, ou tout au moins, elle s'accompagne de vertus. De plus, elle est absolument indispensable à la vie. Sans amis, nul ne voudrait vivre, même en étant comblé de tous les autres biens. La troisième vient aussi de l'Éthique à Nicomaque. Mais on admettra peut-être qu'il est préférable, et c'est aussi pour nous une obligation, si nous voulons du moins sauvegarder la vérité, de sacrifier même nos sentiments personnels, surtout quand on est philosophe. Vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre, mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. L'amour et la vérité ont leurs itinéraires, au risque de ne pas s'y conformer, d'où l'injustice et la guerre. Mais quand amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, dit un psaume de la Bible. Deuxièmement, l'immanence intellectuelle et l'immanence volontaire. En dehors de l'expérience qui fait écho de la vie, l'homme vit aussi beaucoup à l'intérieur de lui-même. N'est-ce pas ce qui caractérise l'esprit humain pour une grande part ? C'est cette capacité qu'a l'homme de penser, de réfléchir, de méditer, de ressentir une émotion, en un mot, d'avoir une vie intérieure, comme coupée du monde extérieur, tant du côté intellectuel que du côté affectif. Cette immanence est le propre de la vie intellectuelle dans ses trois moments successifs, appréhension, assimilation et jugement. De même, elle est le propre de la vie affective aux trois moments de l'acte volontaire, intention de vie, choix et premier amour. L'immanence fait donc partie des opérations de l'esprit. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de distinguer l'immanence intellectuelle et l'immanence volontaire, non pas seulement dans leurs éléments constitutifs que nous venons de rappeler, mais au niveau de l'intentionnalité, reflet de la réalité dans la pensée, mêlée de sensibilité et d'imagination. Nous pouvons observer deux intentionnalités, l'une inhérente à la vie intellectuelle et l'autre inhérente à la vie affective. Au plan intellectuel, l'intelligence reçoit la réalité dont elle saisit l'intelligibilité. Au plan affectif, La volonté est en puissance d'un bien qui est une personne. Elle est ordonnée à l'amour. Il y a donc deux formes d'intentionnalité. L'une saisissant ce qui est intelligible, l'autre ce qui est aimable. Dans l'immanence, l'intelligence est modifiée par la réalité, qui elle-même n'est pas modifiée. Quand je regarde une fleur, mon intelligence est modifiée par la connaissance reçue de la fleur, tandis que la fleur n'est pas modifiée. Par contre, quand j'aime une personne, ma volonté est transformée par l'amour de la personne que j'aime et qui m'aime, la personne étant elle-même transformée par cet amour. Ainsi, du côté de l'intelligence, l'objet, la fleur, n'est pas modifié dans l'immanence, tandis que du côté de la volonté, l'objet, l'ami, est modifié. De plus, dans l'amitié, l'union affective réclame l'union effective. Nous sommes donc face à deux vécus différents. Dans ces deux intentionnalités, l'une est-elle plus parfaite que l'autre? En effet, partant de l'ordre génétique, le philosophe cherche à découvrir l'ordre de perfection et dans le cas présent, à savoir quelle est l'intentionnalité la plus parfaite, si l'une est effectivement plus parfaite que l'autre. Dans l'activité volontaire, l'union affective est tournée vers l'union effective, qui a pour finalité l'ami, la personne de l'ami, donc une personne humaine. Dans l'activité intellectuelle, l'intelligence saisit l'unité au-delà de la complexité en utilisant le mode de l'abstraction, ce que la volonté ne fait pas, puisque l'ami n'est pas une abstraction. Cela signifie que l'intentionnalité dans l'immanence intellectuelle dépasse celle de l'immanence volontaire, non pas dans l'ordre du bien, mais dans l'ordre de la fin, qui est l'ordre de l'être au-delà du bien. D'ailleurs, ne peut-on pas affirmer qu'une amitié naît d'une intention de vie qui vise une véritable amitié, certes, mais en vue d'une sagesse, d'un dépassement de l'amitié pour un amour supérieur, source de l'union des amis. La sagesse ne se réalise pas à deux, parce qu'elle est fondamentalement personnelle, unique, comme l'âme est unique et personnelle. La sagesse n'est pas de l'ordre du bien commun aux deux, mais du bien personnel vers lequel les amis tendent en communion l'un avec l'autre. En effet, la communion n'est pas la fusion, comme la communion des âmes n'est pas non plus la fusion des âmes, ce qui est impossible, parce que la personne est unique, âme et corps individualisés. L'intelligence coopère avec la volonté pour atteindre la sagesse, vertu des vertus. Comme l'amitié exige la vertu pour exister, elle est dépassée par la sagesse, vertu des vertus, qui exige la solitude face à l'être et à sa source, en vue de la contemplation de l'être premier. Troisièmement, le vrai, le bien et le beau. Après l'immanence de la vie intellectuelle et celle de la vie affective, il existe une intentionnalité dans l'ordre de l'art. Après le vrai et le bien, qu'est-ce qui caractérise cette immanence? Comment se révèle la beauté? Elle ne provient pas d'un mouvement intellectuel ni d'un mouvement d'amour, mais de quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, d'une séduction. Nous sommes séduits par quelque chose de beau. C'est pour cela que le jugement sur la beauté est si personnel. Quelqu'un pourra trouver une œuvre belle, une réalité belle, qui ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Cette attirance n'est pas affective ni intellectuelle, mais intuitive. C'est beau, tout simplement. J'en ai l'intuition immédiate. Mon voisin n'est pas obligé de ressentir la même chose. Cependant, des amis peuvent partager des intuitions, ressentir une même intuition en visitant un musée, une exposition de peinture, face à un paysage ou devant un monument. Parce que l'amitié fait partager, avec parfois une communion d'intentions. Le vrai implique un mouvement d'assimilation et de jugement. Le bien, un mouvement d'amour et d'accueil de l'autre. Le vrai et le bien ne sont pas intuitifs, contrairement au beau. Le beau séduit, tandis que le vrai et le bien ne séduisent pas. Ils attirent par l'intelligible et l'aimable. Mais la séduction implique, d'une manière spéciale, l'imagination. C'est pour cela qu'elle est plus personnelle, que le jugement sur la beauté est plus personnel. La vérité attire la faculté spirituelle qu'est l'intelligence. La bonté attire la faculté spirituelle qu'est la volonté. Mais la séduction n'attire pas une faculté spirituelle. Elle est de l'ordre de l'image reçue impliquant la lumière, les couleurs ou les formes enveloppées par l'imagination. L'immanence spirituelle fait donc découvrir trois intentionnalités différentes. L'une intellectuelle, du côté de la vérité, l'autre affective, du côté de l'amour, et la troisième intuitive, du côté de l'art. Le philosophe peut-il saisir un ordre entre ces trois immanences? L'une d'elles est-elle plus parfaite que les autres? De fait, s'il y en a trois, il y a nécessairement un ordre entre elles, dans l'ordre génétique et dans l'ordre de perfection. Entre l'immanence intellectuelle et l'immanence affective, il y a un ordre de connaissance. J'ai besoin de connaître avant d'aimer. Ce qui signifie que l'opération intellectuelle précède, au plan génétique, l'opération volontaire, parce que la connaissance précède le bien. La connaissance intellectuelle ne saisit pas l'être, mais son intelligibilité. L'intelligence saisit, assimile, connaît et adhère à ce qui est. Ayant besoin de connaître pour aimer, l'amour prend la première place dans l'ordre de perfection. Pourquoi? Parce que c'est la volonté qui, à l'aide de la connaissance, me permet d'atteindre ma fin. C'est donc le bien qui est premier dans l'ordre de perfection. Comprenons bien. Le bien en vue de la fin, qui réclame la connaissance, donc la saisie de l'être, qui est une connaissance métaphysique de l'être. Aussi, nous prenons conscience de l'importance de la métaphysique, de la philosophie première dans notre vie spirituelle, qui est notre vie intellectuelle, dépassée par notre vie affective volontaire, notre vie affective spirituelle. L'être attire. Le bien attire, mais l'être et le bien ne séduisent pas. Ils n'entrent pas dans la séduction, parce que la séduction regarde la forme. tandis que l'être et le bien regardent la fin. Dans l'ordre de ces trois immanences, le vrai et le bien sont donc premiers, tandis que le beau est second, parce qu'il a besoin de l'imagination.